avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quand les femmes font leur cinéma, à l'occasion du Festival de cinéma de Saint-Denis, un festival qui, cette année, célèbre les femmes, qu'elles soient réalisatrices ou au cœur de fiction, de documentaires. Finalement, existe-t-il un cinéma de femmes? Et sinon, dans un monde de fiction largement dominé par les hommes, comment sont-elles représentées, les femmes? Les voisins, les voisines, vous avez la parole. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez toujours prendre part à nos discussions tous les jours du lundi au vendredi. Dites-nous aujourd'hui quelle est la place des femmes dans les films que vous regardez. Est-elle conforme dans le fond à la vraie vie? Vous pouvez nous appeler tout de suite au 33 1 84 22 71 71. Pour parler des femmes au cinéma, je reçois la réalisatrice marocaine Leïla Kilani. Bonjour Leïla.
Bonjour.
Vous avez filmé dans une fiction la dure vie des femmes ouvrières dans les usines de crevettes et de textiles à Tanger, on en parlera. Également la réalisatrice libanaise Enis Rour. Bonjour Enis Rour.
Bonjour.
Vous avez raconté des histoires de femmes dans un Liban agité, Leïla et les loups, sur la guerre du Liban, et puis plus tôt aussi dans les années 70, l'heure de la libération a sonné, qui avait été sélectionnée à Cannes à l'époque, et qui portait davantage sur la révolte du sultanat d'Oman en 1965. Et puis également dans le studio, Jackie Buet. Bonjour Jackie Buet.
Bonjour.
Alors vous avez fondé il y a presque 40 ans maintenant, le Festival international
de 7 ans
des
cette
femmes.
Année.
Ouais, Festival de films international à Créteil. Vous étiez une pionnière à l'époque.
Je sais pas si 79. J'étais une pionnière ou si nous étions des pionnières. En tout cas, c'est vrai qu'en instituant ce festival, l'objectif était de montrer les réalisatrices qui étaient très isolées, assez peu visibles, et l'objectif était de créer une vitrine. Ouais. Pas un ghetto, je le dis tout de suite, parce que quelquefois c'est mal interprété.
Oh, dès que c'est un cercle international, il n'y a plus de ghetto. Justement, vous nous raconterez toutes les deux, Enis Rour et Leïla Kilani, comment vous êtes devenue cinéaste, qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la caméra. Bien évidemment, vous pouvez aussi poster vos questions et vos messages sur la page Facebook et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter qui vous tendent les bras.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Le monde est un village planétaire.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui nous rapproche.
Eh ben tiens, il y a quand même une émission qui pense à tout le monde.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
7 milliards de voisins. Mais entre nous, là, entre les voisins.
7 milliards de voisins ?
Oui.
C'est maintenant.
7 milliards.
Jackie Buet, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les femmes ont conquis une vraie place au cinéma ?
Oui, je pense que c'est une place qu'elles ont conquis derrière la caméra, hein, on parle, parce qu'évidemment, le cinéma sans les femmes à l'écran, je pense que ce serait un cinéma très pauvre.
Oui, ça ne marcherait pas du tout.
Non, ça ne marcherait pas du tout. Je pense que les actrices sont quand même des personnages très glamour, très, très attractifs à l'écran, mais un peu restreints dans des rôles toujours modèles, toujours un peu... objet, comme on a dit pendant un certain nombre d'années. Le fait que les réalisatrices aient aujourd'hui une forme de reconnaissance, en tout cas dans un certain nombre de festivals, pas encore suffisamment dans les grands festivals, prouve que entrer dans cette profession est tout à fait possible. Elles sont nombreuses, elles sont talentueuses et elles font un cinéma très varié. Donc il n'y a pas un seul type de film chez les réalisatrices.
Mais on a le sentiment néanmoins que les femmes éprouvent encore le besoin de raconter des histoires de femmes.
Oui. Ça, c'est un peu le déficit historique, on va dire, de la multiplicité des personnages féminins, aussi bien historiques d'ailleurs, parce que quand on va parler tout à l'heure de Von Trotta, qui a pu mettre en scène des personnages historiques comme Rosa Luxembourg, je crois qu'il y a un déficit de représentation des femmes importantes, des femmes qui ont compté dans l'histoire de toute notre humanité, de civilisations et de cultures différentes. Donc, prendre comme sujet une femme ou la lutte des femmes ou même simplement la vie quotidienne des femmes, ça reste encore très riche et à explorer.
Ouais. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à des histoires de femmes. Je ne sais pas si c'est bon signe pour vous. En 2006, le film sur l'histoire tumultueuse de la légalisation de l'avortement en France a été réalisé par un homme et pas une femme.
Oui, oui. La lutte était menée par des femmes, c'est vrai. Gisèle Halimi et le procès de Bobigny. relayé après par une autre femme qui a défendu à l'Assemblée nationale la loi pour le droit à l'IVG. Elle était un peu isolée, c'est sûr. Mais donc, je crois que les réalisatrices même ont influencé le cinéma. Mmh. En ouvrant comme ça des pans entiers d'images nouvelles de la femme et des femmes, elles ont aussi donné aux réalisateurs l'envie de le faire.
Exactement.
Je crois que ça a autorisé les hommes à le faire. Ouais. Et donc, c'est leur influence, on va dire.
Enis Rour, justement, vous qui avez une longue carrière derrière vous de réalisatrice libanaise, vous avez commencé derrière la caméra il y a combien d'années maintenant?
Il y a une quarantaine d'années.
Oui.
Et c'était très difficile et très douloureux d'être une pionnière. Mmh. À l'époque, il n'y avait que Agnès Varda et Vera Chitilova dont on parlait. Mais c'était des femmes qui tournaient dans le confort des industries de cinéma occidentales et souvent dans le confort des studios. Et moi, je voulais réaliser L'heure de la libération a sonné dans une région militairement extrêmement dangereuse qui vivait à l'âge de pierre.
Au sultanat d'Oman.
Dans le sultanat d'Oman, dans la zone libérée du sultanat d'Oman. Et pendant 2 ans, les producteurs me prenaient pour une folle. Et j'ai failli cri-crac croire que j'étais vraiment folle, parce que une femme qui n'a jamais été dans une école de cinéma, qui ne sort pas d'un pays qui a une histoire de cinéma, et qui veut tourner dans une région dangereuse militairement, eh ben c'est une folle.
Et aujourd'hui, ça serait banal.
Non, ce n'est pas tellement banal, parce que quand même, marcher 800 km à pied sous le bombardement d'une napalm de la Royal Air Force, ça ne s'est pas encore reproduit.
Il y a beaucoup de femmes qui font du documentaire, en tout cas journalistique, aujourd'hui. Mais surtout, vous, à l'époque, vous n'aviez déjà pas pu avoir accès à la formation en école de cinéma.
Non.
Il y avait une bourse qui vous était proposée en Tchécoslovaquie à l'époque, c'est ça?
Oui.
Donc vous n'y êtes pas allé parce que c'était un peu aventurier, c'est ça?
Oui, j'avais très peur d'aller dans un pays dont je ne comprenais pas la langue. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement... les obstacles ne viennent pas seulement du monde extérieur, elles viennent aussi des inhibitions intérieures. Faut pas toujours blâmer les autres. Faut se regarder aussi.
Mais il faut dire que vous vous êtes quand même lancé tout de suite dans des projets exigeants et compliqués.
Oui, et ce qui m'a porté, c'est la passion de la justice et la raison pour laquelle je voulais faire un film sur la guérilla du Front de Libération du Golfe Arabe Occupé, c'est que c'était le seul mouvement de libération, le seul et l'unique, qui respectait la spécificité de l'oppression féminine. Parce que j'avais... l'expérience des femmes algériennes et aussi des femmes palestiniennes m'avait laissé un goût très amer dans la bouche, et ça s'ajoutait à ce que j'avais lu sur Olympe de Gouges dans la Révolution française. C'est, je veux dire, les femmes donnent leur sang, donnent leur énergie, et puis une fois la révolution terminée, il ne reste rien. Or, le Front de Libération du Golfe Arabe Occupé était le seul, en tout cas dans le monde arabe, qui disait « La femme ne souffre pas seulement de l'oppression de classe, elle ne souffre pas seulement de l'impérialisme, ni seulement du capitalisme, elle a un sultan, le sultan paternel, le sultan marital, elle a son frère qui l'opprime, le chef de tribu. » Il reconnaissait la spécificité de l'oppression féminine qui ne se réduit pas à une oppression de classe.
C'est ça que vous aviez envie de raconter quand vous avez commencé à faire du cinéma. Parce que vous étiez une femme réalisatrice et très peu nombreuse. Donc.
Quasiment, il n'y en avait aucune que je connaisse dans le tiers-monde qui s'était lancée, en tout cas dans une aventure aussi dangereuse. Et moi, je sors de la Dolce Vita libanaise. J'étais une fille très douillette, une enfant gâtée. Et je ne sais pas du tout comment j'ai réussi à marcher 800 km à pied sous les bombardements, en marchant parfois 14 heures par jour, en mangeant une seule fois du riz et 2 tasses de thé, une le matin, une le soir.
Ça, c'était vos débuts au cinéma, finalement, dans les années 60. Hein.
J'ai filmé en 71. Ouais. J'ai filmé en 71 et je n'ai pu terminer le film qu'en 74. Et je veux dire, pendant tout le temps, on me prenait pour une folle, parce que quand j'ai voulu lancer, sortir le film au cinéma, encore, on m'a pris pour une folle, parce que ce n'était pas une longueur commerciale, c'était un 62 minutes, sur un sujet qui ne faisait pas des manchettes de journaux. Je me souviens, les gens m'ont dit, si on va voir les films de Yoris Sivan sur le Vietnam, c'est qu'il y a des manchettes. Ici, c'est une guérilla inconnue.
Justement, ce cinéma commercial, comment se fait-il? Comment vous expliquez? Alors, je pose la question aussi à Leïla Kilani, réalisatrice marocaine, et puis à vous, Jackie Buet, du Festival International de Films de Femmes de Créteil. Comment expliquez-vous que ce cinéma commercial soit les femmes ne s'en sont pas réellement emparées?
Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que le désir de cinéma chez les femmes existe, qu'il y ait d'ailleurs école ou pas école, hein, parce que les réalisatrices parfois ont démarré comme Eni directement sur le terrain. Mais je pense que ce qui est très important, et peut-être que Leïla pourra nous en parler, c'est que certains grands festivals comme Cannes reconnaissent le travail. Alors, Leïla fait partie des réalisatrices qui ont été invitées à Cannes, je crois que c'est très important.
Leïla Kilani, oui, sur le cinéma commercial.
Je ne sais pas s'il y a une question de genre dans le cinéma commercial, parce qu'il y a quand même des réalisatrices qui font des comédies, au sens noble du terme, et qui s'emparent de cette part en tout cas de cinéma commercial ou pas, donc je ne sais pas s'il y a vraiment une question.
Personne n'a inventé en tout cas une grande héroïne aussi mythique qu'un James Bond féminin, par exemple. Alors ça aurait pu être un homme qui aurait pu le créer, ou une femme,
Lara Croft,
je sais pas. Oui, d'accord. mais c'est vrai qu'il y a peu de
mais c'est des
grandes héroïnes commerciales.
Je sais pas, moi je trouve que c'est un personnage aussi polémique qui soit sur il y a quand même même dans le cinéma de Besson, il y a des figures féminines qui sont on aime ou on n'aime pas, on adhère ou on adhère pas, mais elles sont viriles quand même, toutes ces femmes, elles s'emparent d'espaces qui sont pas pour le coup celui auquel on les assigne. Donc je crois que, en tout cas de manière assez arbitraire, moi je ne pense pas qu'il y ait une question du genre dans le cinéma commercial.
En tout cas, vous avez choisi tout comme à Enis Roure un cinéma exigeant, Leïla Kilani. Vous avez d'ailleurs déclaré dans une interview, le cinéma c'est un exercice, il faut voir un film comme on va à la salle de sport, ça fait mal au début et puis on s'habitue. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. Elle est de père iranien, de mère anglaise, Tala, Unfinished Business. Nous parlons des femmes dans le cinéma, devant ou derrière la caméra d'ailleurs, avec deux femmes réalisatrices. Et puis Jackie Buet, vous qui avez lancé, voilà, 37 ans, le Festival International de Films de Femmes de Créteil. Un message de Mahamat pour nos amies réalisatrices qui nous demande, il est à N'Djamena, au Tchad, hein, il nous demande comment est vue la femme dans le cinéma dans les pays arabes et islamiques. Qu'est-ce que vous répondriez à une question aussi vaste, Leila Kilani, réalisatrice
Alors,
marocaine.
Je ne peux parler que de la réception de mes films et de mon propre étonnement joyeux face aux réactions dans le monde arabe et puis en particulier au Maroc, et donc mon pays et puis le pays dans lequel se passent mes films, c'est aussi important. C'est-à-dire, c'est un pays qui regarde ses propres images. Et j'ai été décontenancée, mais dans le bon sens, et bousculée, parce que finalement, ces figures qui sont celles des personnages principaux sont des figures extrêmement transgressives. En ce qui concerne sur la planche, ce sont des
ouvrières filles, dans des usines de crevettes et de textiles. Hein.
Mais qui font la fête, qui volent, qui couchent, qui se foutent de la gueule de tout le monde et de la loi et de l'ordre social, qui sont dans une jouissance et dans une jubilation de cette audace à pousser en permanence les lignes pour jouir. Et ce film a reçu une adhésion non pas monolithique, mais assez étonnante. Et notamment, par exemple, moi j'ai été extrêmement surprise que des milieux dits islamistes porte le film et n'y voit aucune...
Qu'est-ce que vous entendez par porte ?
C'est-à-dire que moi, à la première projection, j'ai eu...
J'avais qui était où, à Tanger ?
À Tanger. La deuxième projection publique, la première était dans un milieu assez confiné du Festival de Marrakech, donc je la prenais avec...
Oui, dans les milieux intello, voilà, artistiques.
Je la prenais avec beaucoup de... Comment dire ? Non, pas de réserve, mais en tout cas... Et à Tanger, donc j'avais beaucoup... c'était une projection qui était assez éprouvante émotionnellement pour moi. J'ai eu les premières interviews, dont de journaux d'obédience islamiste, et ils n'y ont vu que des portraits de colère sociale, de questions politiques fondamentales qui les bousculaient, en tout cas qui les intéressait fondamentalement. Ils n'y ont vu, c'est-à-dire il y a des scènes de nus, ça les a pas du tout choqués. Donc, en tout cas, moi, ma propre appréciation sur des catégories comme ça, assez fermées, sur lesquelles moi j'aurais dit voilà la réaction a finalement été bousculée. Donc j'ai trouvé ça réjouissant. Et puis à partir du moment où ça c'est déstabilisant, c'est bien de se remettre en question.
Et plus généralement, comment est vue la femme dans le cinéma, dans les pays arabes, alors dans un pays comme le Maroc, pour répondre à la question de Mahamat, en dehors de vos films, comment Jackie Buet, comment est-ce que vous sentez les choses, vous?
Moi j'ai toujours été un petit peu étonnée, par exemple dans le cinéma iranien, qu'on a l'occasion de découvrir pour préparer le Festival de Créteil. Et cette année, il y aura plusieurs films iraniens. Les femmes sont en permanence voilées, les actrices qui jouent,
alors,
y compris à l'intérieur des
pays
maisons.
Arabe, mais un pays musulman, mais effectivement, c'est intéressant. En fait.
Donc, c'est probablement aussi quelques questions qu'on aura à leur poser. Ouais. Est-ce que c'est une obligation ? Est-ce que c'est un dogme là-bas ?
Ouais. Eh bien, on va y revenir justement, juste image... après le flash. Hein, vous restez avec nous, Jackie Buet, Nisroor et Leila Kilani, femme au cinéma, au cœur des histoires ou derrière la caméra. Dans 3 minutes après le flash.
Tous les jours, Accent d'Europe.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins et bien sûr de voisines. Nous parlons de la place des femmes au cinéma, aussi bien au cœur des histoires que derrière la caméra, en compagnie de deux réalisatrices, Nisroor, réalisatrice libanaise, et Leila Kilani, réalisatrice marocaine, et Jackie Buet, fondatrice il y a 37 ans du premier Festival international de femmes de Créteil, qui maintenant s'est taillé une belle place dans le paysage des festivals. Mais aussi dû à cette grande ouverture internationale, puisque vous représentez, enfin vous recevez énormément de réalisatrices d'ailleurs du monde entier, y compris de pays du Sud, qui ont des histoires, voilà, qui ont des histoires un peu différentes à raconter aussi, des réalités de vie différentes. J'aimerais qu'on revienne à votre carrière, Enis Rour. D'ailleurs, toutes les trois, enfin, en tout cas entre Leïla Kilani et vous, Enis Rour, il y a vraiment plusieurs générations d'écart. Est-ce que vous avez le sentiment que ça fait une différence dans la façon de concevoir, de raconter des histoires de femmes ou pas, Enis Rour?
Non, je crois que...
Qui avait commencé dans les années 60, très seule, comme vous l'avez dit.
Dans les années 70 plutôt. J'ai tourné en 71. C'est-à-dire que je trouve que la génération actuelle a beaucoup de chance. Parce que moi, je veux dire, comme je vous ai dit, on me prenait pour une folle parce que je voulais faire des films. Et surtout des films difficiles et dans une région militaire, comme pour l'heure de la libération a sonné dans la zone libérée du Sultanat d'Oman. Mais même quand j'ai été sélectionnée au Festival de Cannes, je n'oublierai jamais comment, quand j'étais en Algérie, invitée à une rencontre cinématographique, j'étais derrière... Et j'entendais deux jeunes qui ne savaient pas que je les entendais dire, on m'avait présenté, et l'un disait à l'autre, tu crois qu'une femme peut faire un film, il nous raconte des mensonges, ce n'est pas vrai. Mmh. Et les gens étaient incrédules. Mmh. Je n'oublierai jamais un journaliste libanais qui m'a posé cette question. Est-ce que vous êtes une vraie femme? Est-ce que vous avez jamais été amoureuse, par exemple? Et puis bon, comme j'étais.
Attendez, vous ne croyez pas si bien dire, parce que on a une question. Alors toujours de notre internaute tout à l'heure, qui est furieux parce que j'ai pas donné l'intégralité de son nom. Pardon, c'est Mahamat Souni Nokour de N'Djamena au Tchad, et qui posait justement la question: est-ce qu'une femme peut mener des activités de cinéma en étant en couple, et comment sont vues les femmes de cinéma par leur époux? Voilà, c'est sa question hein, sur Facebook. Comment vous répondez?
C'est j'étais en couple quand j'ai fait Leïla et les loups. Et
donc ça, c'était dans les années 80.
Oui, c'était dans les années 80. Je l'ai tourné encore en 80 et
donc
je l'ai terminé.
En pleine guerre du Liban, et oui. Ça porte sur le conflit, la place des femmes dans le conflit.
Oui, et là encore, je veux dire, au niveau du couple, j'ai eu beaucoup de soutien moral de la part de mon compagnon qui est devenu mon mari, Samir Ramadani. Mais à un moment donné... J'étais au Liban pendant 6 mois et je suis revenue, et puis il m'a proposé qu'on se sépare. Il m'a dit: toi tu disparais pendant 6 mois et moi qu'est-ce que je fais? Alors je croyais que c'est parce que je suis une femme, et mon collègue tunisien Rida Bey m'a dit: j'ai eu le même problème quand je suis revenue. Alors, lui, c'était plus grave. Il m'a dit: j'ai trouvé quelqu'un d'autre à ma place. Mais ma femme me disait: mais je t'aime. Moi, il n'y avait personne à ma place, mais quand même, ça m'a fait mal. Il faut quand même admettre que les femmes attendent les hommes et que les hommes n'attendent pas tellement les femmes. C'est toujours le cas.
Et faire des films, ça veut dire s'absenter. Hein. En tout cas, être extrêmement absorbé pendant plusieurs mois par ce film qui vous dévore. Hein. Voilà. Leïla Kilani, sur la différence de génération dans la façon dont vous avez envie de vous projeter, de raconter des choses sur les femmes. Hein. Ou qui est plutôt de la jeune génération.
Il y a un mot qui a été prononcé par Annie qui a dit folie, mais là pour le coup, moi je suis dans la même folie, mais je trouve ça plutôt rassurant.
Alors comment vous vivez quand vous êtes consumée par votre film?
C'est littéral, c'est-à-dire que je me consume, mais en même temps je trouve que c'est quelque chose qui est une telle grâce de faire un film, et une grâce collective. Donc il faut entraîner des gens, il faut savoir doser avec virilité le pouvoir, et c'est peut-être la question essentielle par rapport au cinéma fait par les femmes, c'est cette appréhension assez caduque. Un homme qui dirige, on dit il a des couilles, hein. Et une nana qui dirige, on dit elle est casse-couille.
C'est bien vu.
Voilà. Et donc moi, on m'a fait des procès d'intention que je diabolise pas forcément, en me traitant de Margaret Thatcher, Donc
quand
j'ai eu des problèmes.
Ah oui, moi j'ai eu
exactement des petits soucis qui me font maintenant excuser.
Mais pas propre
bien
au cinéma, pas propre.
Non, je pense pas que ça soit propre au cinéma. Je pense que c'est. Mais alors, c'est cette question de pouvoir et de représentation du pouvoir. C'est-à-dire qu'à mon avis, une pharmacienne qui met son utérus ou ses couilles sur la table en a autant que une cinéaste. Ça n'est pas propre au cinéma. Le cinéma est plus ambigu dans son regard, dans son appréhension un peu faussement bohème et faussement permissive. Au fond, on n'a pas plus, mais on a autant d'inertie et de réactions
Et d'idées toutes faites. C'est ça, finalement.
Oui, avec un vernis craquelé un peu glamour du cinéma où vous avez des gens qui sont qui pris individuellement certainement ne génèrent pas du tout cette résistance au pouvoir porté par une femme, mais collectivement il se crée quelque chose où vous avez le corporatisme dans toute sa splendeur masculin qui éclate dans un mot que je déteste qui s'appelle le managérial.
Est-ce que vous confirmez, Jackie Buet, vous qui recevez des femmes réalisatrices que vous mettez à l'honneur
au
festival?
Oui, je crois que pour être créatrice dans le milieu du cinéma, il faut effectivement montrer une forme d'autorité. En tout cas, il faut s'affirmer. Et dans la tradition, et dans la tradition de beaucoup de cultures, s'affirmer en tant que femme, c'est toujours une forme d'insolence et de provocation. Et à ce moment-là, la censure arrive très très vite. Donc ce que font les réalisatrices du monde entier à travers leur travail, c'est de non seulement produire des images nouvelles qui les intéressent, qui les passionnent, parce qu'on a entendu aussi le mot de passion, mais elles s'imposent comme, disons, chef d'entreprise, d'une entreprise qui est créer un film, créer des personnages, créer une histoire.
Et c'est vécu.
Ou aller sur le terrain de la guerre. C'est quand même une entreprise où il faut être convaincu soi-même et on a besoin d'un retour. Et c'est ce retour qui n'est pas généreux. Et je dirais que les hommes, d'une certaine façon, sont dans un égoïsme total, puisqu'ils ne retournent pas le compliment aux femmes pour leur dire « Vous avez été géniale, vous n'avez pas été folle, vous avez été géniale, vous avez eu la force de le faire. » Et ce courage.
Enfin, rétrospectivement.
Et souvent, d'ouvrir des portes que d'autres réalisateurs n'auraient pas ouvertes, parce que le fait que Eni soit une femme et filmer des femmes dans des zones comme ça de guerre, elle a pu le faire parce que je crois qu'elle a instauré un climat de confiance et pas seulement d'autorité. Elle a eu la faculté de persuader et d'ouvrir le dialogue.
Tu te trompes, Jackie. Je n'ai pas instauré un climat de confiance. Je devais tout le temps me battre contre l'inertie et le je ne sais pas, je veux dire la tradition de vulgarité qu'il y avait dans le cinéma avant moi. Et je devais tout le temps forcer le destin, tout le temps en permanence. Et je veux dire, moi, ce qui me gêne, ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que on voulait tout le temps m'accrocher une virilité que je refuse. Je revendique mon droit d'être femme et de rester femme et de faire des films. Je n'oublierai jamais un producteur latino-américain, quand il a vu l'heure de la libération a sonné, il a dit « Era fatto con los cojones ». Je lui ai dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il m'a dit « C'est un film fait avec des couilles ». Je lui ai dit « Non, c'est un film fait avec un utérus ». Les utérus, c'est très créateur, ça engendre la vie. Et chaque fois, on me compare aux hommes. Une fois dans un meeting de cinéastes arabes, un cinéaste irakien, et homme de théâtre irakien, a dit Hani Sroor toute seule, elle est plus, elle équivaut à 5 hommes. Et tout le monde a éclaté de rire.
Vous n'avez pas été sensible aux compliments.
Non, c'est-à-dire, je revendique le droit de rester femme parce que bon, je suis d'apparence très féminine et les gens ne savaient pas où me classer. Un poète égyptien, Abdelrahman Al-Abnoudi, qui est très à gauche, a dit en me regardant comme ça de haut en bas, il a dit qu'est-ce que cette que c'est que cette personne étrange. Ni elle est un homme, ni elle est une femme. Bon, elle n'est pas un homme parce que j'ai l'air très féminine, mais elle n'est pas une femme parce que je fais des films qui piétinent les plates-bandes des hommes. Je tourne dans des zones de guerre, dans des zones dangereuses, et je fais des films qui sont... assez radicaux.
Il faut qu'on parle un peu des histoires que vous racontez dans vos films. Leïla Kilani, vous réalisatrice marocaine, pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement de raconter une histoire de fille de milieu très populaire, ouvrière dans les usines de crevettes, c'est pas franchement glamour, et de textile à Tanger.
Mais ça l'est totalement. Moi, je trouve ça formidable d'audace et de liberté et de jouissance, parce que ces filles là, j'ai le catalogue du festival et il est ouvert sur la page de mon film culte Vanda de Barbara Loden.
Et mais vous revendiquez finalement un cinéma très réaliste, une poésie du réalisme ou pas du tout?
Je sais pas si c'est un film du cinéma naturaliste ou réaliste. C'est un cinéma contre toute attente très joyeux. Un cinéma fébrile, un cinéma épidermique.
Alors en tout cas, ça permet de découvrir qu'il y a des usines de crevettes à Tanger, de crevettes d'ailleurs qui ne sont pas pêchées au large du Maroc, hein,
du
si
tout,
je me trompe pas.
Qui sont pêchées en Hollande, qui sont transformées au Maroc et qui sont revendues dans les supermarchés occidentaux.
Et donc, ce sont des femmes qui épluchent des crevettes, hein, c'est ça?
C'est ces femmes qui épluchent les crevettes.
Dont la peau est imprégnée réellement de cette odeur de poisson.
Qui subissent un rapport très ambigu au travail, parce que ce travail les affranchit. Elles acquièrent de fait une nouvelle place et en même temps les asservit. Et c'est cette ambiguïté-là qui est tragique au sens antique et qui est en même temps éminemment cinématographique qui m'intéressait. C'est-à-dire des trajectoires sublimes et lyriques de personnages qui sont... qui gronde de désir et de plaisir. C'est une fureur de vivre à la marocaine. Et c'est une expression que j'ai empruntée à une fille qui était fan du film. Et c'est vrai, véritablement ça. Elles incarnent une génération nouvelle qui se consume, mais qui ne renonce à rien. Et donc, c'est un film qui brûle de cette incandescence-là. C'est des êtres géniaux que j'ai croisés, qui sont vraiment pleins de désir et de liberté, d'audace.
C'est transformé en fiction. Hein.
En héroïne, voilà. Et en héroïne de fiction, et qui sont mes personnages.
Ça aurait pu être un documentaire.
Non, du tout. Non, du tout, parce que justement, je me suis posé la question, moi je viens du documentaire, j'avais envie de raconter cette histoire en documentaire, et ça ne m'intéressait pas, parce que ce qui m'intéressait, c'est cette idée de transfiguration, d'héroïne quasi irréaliste qui casse tout et qui emporte...
Et d'apporter votre écriture. Vous savez que dans cette émission, on donne le numéro de téléphone au début de l'émission, si des voisins veulent se joindre aux discussions, et des voisines bien évidemment, 33 1 84 22 71 71. Un voisin a envie de se joindre à nous et peut-être de vous interpeller toutes les trois. Séraphin est à Abidjan. Bonjour Séraphin.
Bonjour Emmanuel.
Séraphin, vous souhaitez nous parler des femmes chez vous qui mènent des carrières soit de comédienne, soit de réalisatrice?
Oui, effectivement, je salue d'abord notre grande réalisatrice qui passe en ce moment à l'antenne. Il faut dire que j'ai une grande admiration pour elle. Je voudrais apporter un peu d'eau à son moulin pour dire que effectivement, on voit les femmes plus dans les actions, dans les films, que derrière les caméras. Et cela pour diverses raisons. D'abord, il y a les préjugés raciaux. Il y a surtout cette vision étriquée que nous donnons de la femme. On se dit, réalisation, ça c'est l'affaire des hommes. Une femme, est-ce qu'elle pourra vraiment être une grande réalisatrice? Mais moi, j'ai dit oui, il faut bannir ces préjugés. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui font plus que les hommes, qui interviennent dans des secteurs qui étaient autrefois réservés uniquement aux hommes. Et aujourd'hui, on voit les femmes. Par exemple, ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, Oui. On a, c'est vrai, on a des grandes actrices, mais on a aussi une grande réalisatrice ici, à la personne de Akissi Delta, que vous connaissez sûrement à travers le téléfilm La famille, ma famille, qui passe sur TV5. Alors voilà, il suffit de donner des moyens financiers.
Alors, c'est vrai que ça, on en a, c'est une bonne question que vous posez, la question des financements, notamment parce que, pas que pour les femmes qui veulent faire du cinéma ou des séries ou des séries télévisées d'ailleurs, hein, mais également pour les hommes, le financement est une question épineuse, mais peut-être encore davantage pour les femmes. Merci Séraphin de nous avoir appelé. Jackie Buet, régulièrement au Festival International de Films de Femmes de Créteil, vous recevez bien évidemment des réalisatrices subsahariennes, mais oui, c'est peut-être le continent qui a encore du mal à faire émerger des talents féminins.
Oui,
elles pour sont, des raisons financières et pratiques notamment.
Elles sont justement, je pense, comme le disait tout à l'heure Enis Rour, dans des continents très défavorisés sur le plan des financements de films, de façon générale. Donc là où il y a peu de réalisateurs, c'est encore plus difficile pour les femmes, vu tous les barrages dont on a parlé tout à l'heure, de traditions, de coutumes, pour s'émanciper, sortir de son rôle traditionnel. Alors, trouver des moyens et des financements importants, parce que le cinéma de fiction, en tout cas, demande des budgets plus conséquents, ça devient très difficile, parce qu'il faut trouver à ce moment-là des interlocuteurs prochain, de confiance.
Pour le prochain festival là, de Créteil, en mars prochain, il y aura des réalisatrices subsahariennes
qui vont
venir.
Oui, pour la première fois en 37 ans de festival, on a découvert une réalisatrice éthiopienne. Oui. Donc je suis ravie parce que c'est un pays dont je connais mal le cinéma et j'ignorais totalement que des réalisatrices se lançaient dans l'aventure. Donc je suis ravie de pouvoir présenter prochainement en mars à Créteil ce film.
Mesdames, en tout cas, les réalisatrices.
Moi, j'appelle mon métier de cinéaste également métier de mendicité internationale parce que pour chaque film, il faut que je mendie un peu partout dans le monde, par-ci, par-là. Et arrive un moment où parfois ça gêne la créativité. J'ai vraiment envie de me consacrer au côté créatif plutôt que de passer ma vie à remplir des dossiers, à prendre dessous d'ici, dessous de là, et chaque fois les dessous et demi sont conditionnés par des conditions parfois contradictoires avec les dessous et demi qu'on peut trouver dans un autre pays. Enfin, c'est
femme dans le cinéma, métier de mendicité internationale. Voilà, on va retenir la formule
et
pour
le
Twitter.
Le mendiant est orgueilleux, comme dirait Albert Castro.
Merci. On y revient dans quelques instants. Et puis surtout, vous allez nous dire aujourd'hui, puisque ces films dont on parle, vous les avez réalisés il y a quelques années, quels sont aujourd'hui les sujets qui vous inspirent pour les prochains films.
Au départ, j'ai commencé, je suis parti sans nada. J'avais rien d'autre autour de moi qu'un triste panorama. N'ayant pas la patience à faire pousser de la marijuana, j'allais charbonner quand beaucoup suçaient leur pouce en pyjama. Loin des États-Unis qui votent massivement pour Obama. J'ai vu la France où on agit tout au bira une rama. Cerné par les serpents, les requins, les hyènes, les piranhas. Faut apprendre à morfler en silence et surtout dire que ça va. Promu à évoluer dans la capitale de la para, où l'égalité des chances est un très vaste charabia. La famille Le Pen m'a jamais déçu dans son blabla. Beaucoup m'avaient dit qu'on était potes avec eux, au moins ça va. Pas mal d'Américains ont pris la France pour le Nirvana. S'imagine qu'on est tous sapés en Vuitton et Prada. Sans même se douter que beaucoup galèrent pour mettre du Zara. Et que les communautés sont plus divisées que tous leurs bandanas. On a des quartiers plus violents que le Bronx au niveau Garvin. Un taux de remplissage record en Europe de tous les quarts plats. Une population qui s'appauvrit un peu plus à chaque fois. Une liberté d'action qui diminue un peu plus à chaque loi. Si tu vois les incous à Jay-Z ou Lady Gaga, lui prends pas la tête avec nos malaises et nos tracas. Laisse-les kiffer la fashion week et emballer leurs achats. Ignorant tout du drame qui se trame sous la soie, dealer. Everything's right.
Yeah, yeah, everything's right.
Is everything right?
Yeah, yeah, everything's right.
Is everything right?
Yeah, everything.
Is everything right?
Yeah, everything.
Is everything cool?
Yeah, yeah, everything's cool.
Ladies, everything cool?
Yeah, everything's cool.
Is everything cool?
Yeah, everything.
Is everything cool?
Yeah, everything.
Ici pas de Malcolm, de Martin Luther ou Mandela, c'est Arnaud Pino, Lagardère, et si tu veux tester chez là. Le pouvoir est tellement corrompu, leur a tellement de carats qu'ils auraient pu faire prendre un emploi fictif à Che Guevara. Un employé peut se faire virer en bougeant le pilote. Depuis que pèse la menace d'être racheté par les Chinois, crier sa colère est permis, mais le mène à rien qui soit aussi retentissant qu'une victoire en Ligue 1 du club lillois. Le stress en entreprise, on a rendu beaucoup aux abois. Faut porter sur son dos des cartons pendant au moins 3 mois pour avoir l'équivalent de ce qu'a pu toucher Nabila après une séance. Photo à la con qu'on verra dans le gala. Au Monoprix, les gens ont du mal à remplir leur cava. Passer du franc à l'euro a mis plus d'un salaire à plat. L'embauche est très dur, m'en permis un mec honorable. Le système veut faire une manucure à la main de Fatma. Le noir qui veut évoluer dans le petit écran le fera pas mieux qu'en faisant danser Carla Bruni dans son cul de raga. Le nombre de négros dans le Sénat ne décolle pas depuis l'époque où Shaggy chantait Mista Lava Lava. Si tu vois Jay-Z ou Lady Gaga, Ripa, laisse-les te dire qu'ils sont au paradis, surtout le Ripa. Que tu portes la croix, porte le hijab ou la kippa. Dis-leur qu'on est tous unis et le reste ne le dit pas. Dis-leur everything's right.
Yes, yeah, everything's right.
Is everything right?
Yes, yeah, everything's right.
Is everything right?
Yeah, everything.
Is everything right?
Yeah, everything.
Is everything cool?
Yeah, yeah, everything's cool.
Ladies, everything cool?
Yeah, everything's cool.
Is everything cool?
Yeah, everything.
Is everything cool?
Yeah, everything.
Is everything right, JP Manova, c'est du rap français. J'ai 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons des femmes dans le cinéma, la place des femmes, le rôle des femmes dans les films aussi, comment sont-elles montrées, et puis quelle est cette difficile vie de femme réalisatrice de films. On en parle avec deux réalisatrices libanaises marocaines. Vous nous le disiez, Enis Rour, il y a quelques minutes. Trouver des financements, évidemment, c'est la plaie qui paralyse parfois la création. Quelle était votre formule?
La mendicité internationale.
C'est ça. Vous, que vous reprenez à votre compte ou pas, Lila Kilani?
Mendiant et orgueilleux. Parce c'est que c'est d'abord un très très beau livre et puis ça dit tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la joie c'est un très beau geste faire du cinéma. Donc on est aussi la tête et les rétines ailleurs.
Mais
donc,
alors là, vous pensez déjà à un prochain film?
Oui,
quels sont les sujets qui vous inspirent en dehors des problèmes d'argent?
Je suis en préparation de mon prochain film qui s'appelle Indivision, qui est une histoire d'une famille sur 3 générations, 3 femmes.
Oui, comme par hasard.
Voilà, 3 femmes, mais il y en a même 4, puisqu'il y a une matriarche, une Macbeth féminine.
Ça se passe au Maroc.
Ça se passe au Maroc, dans une vieille maison des Katis patriciennes, donc plutôt dans la bourgeoisie, qui a désargenté, qui a un grand terrain, une maison plantée dessus, et de l'autre côté du terrain, il y a un quartier clandestin. Donc c'est un peu les Indiens qui habitent là-bas. Et on organise un mariage d'une fille qui est 3 fois divorcée, qui est transgressive sans le vouloir. Et il y a 3 générations, il y a une matriarche très compressé derrière ses tailleurs.
C'est cette évolution rapide entre d'une génération à l'autre de la condition des femmes que vous avez envie d'explorer là dans votre pays, le Maroc.
En tout cas, là encore, c'est jamais de manière dogmatique et idéologique. Ce que j'ai eu envie de raconter, c'était une cerisée féminine avec un côté un peu élisabétain, mais très contemporain, et avec cette histoire de terre. Et de terre apportée à 4 générations.
Et finalement, globalement, alors même si vous n'avez pas envie d'aborder les sujets de façon dogmatique, les printemps arabes, plus récemment les événements Charlie Hebdo, qui ont une portée internationale aussi, quels sont les sujets qui vous inspirent en tant que cinéaste, Enis Rour?
Les sujets sur la situation du monde. Et Leïla et les loups que je présente bientôt le 5 février à 18h30 au Festival Saint-Denis.
Tout est noté sur notre page, je vous rassure.
C'est un film qui est prémonitoire et prophétique. C'est vrai que je l'ai tourné il y a près d'un quart de siècle, mais aujourd'hui tout ce que j'avais filmé se trouve hélas réalisé. L'utilisation des religions monothéistes à des fins politiques, que ce soit chez les juifs, les chrétiens ou les musulmans. Le film dénonce ça, et à l'époque tout le monde était incrédule et me disait mais l'équipe n'était pas du tout sensible et ne comprenait pas ce que je voulais dire. Et aujourd'hui le film se révèle être prophétique et confirmer tout ce que j'avais senti. Et donc mon message aux futurs cinéastes, c'est Alors, si, ignorer les obstacles.
Des filles jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de faire du cinéma.
Ignorer les obstacles. Les obstacles n'existent pas. Ou du moins 95% des obstacles n'existent pas. Même les bombes et les balles ne doivent pas vous arrêter. Parce que quand vous êtes passionné vraiment par un sujet, il faut foncer. Et vous verrez que dans la mesure où vous servez l'idée d'égalité, de justice, de bonheur de l'humanité, de la cause des femmes aussi, mais bien comprise, eh bien, je vous garantis que les obstacles n'existent pas.
Leïla Kilani, vous, vos messages aux petites sœurs.
Mon expression, voilà, mon expression favorite, mettez l'utérus sur la table et foncez. Voilà, et Yallah avec ça, vraiment en écoutant sa propre sensibilité et travailler.
Voilà,
et
ben
le travail.
Jackie Buet.
Comme des artisans, travailler.
Eh bien, ce que je relevais de ce que disait Annie, c'est que il faut pas s'auto-censurer soi-même. Mmh. Il faut s'autoriser et prendre absolument confiance en soi. Mmh. C'est ça qui est déterminant.
Ça sera le mot de la fin. Merci à toutes les trois. Jackie Buet, Festival International de Films de Femmes de Créteil. Ça sera en mars prochain, du 13 au 22 mars. Mais ces jours-ci, il faut évidemment aller voir vos films, Annie Sroor et Leïla Kilani, au Festival de Saint-Denis consacré aux femmes réalisatrices. Tout est noté sur notre page 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, ça sera comme chaque mois. Le rendez-vous des tchatcheuses. Je reçois trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix et en toute liberté. Merci à vous tous de votre fidélité, les voisins et les voisines. On se retrouve demain, même heure, même endroit, sur RFI, bien sûr. Speakons français.